Allez.
On est sur le tira, vraiment.
Alors, c'est le Rav Ashkenazi qui raconte l'histoire suivante, une histoire très connue de tous. Aux États-Unis, quand on pose la question à un citoyen américain qui représente pour lui le citoyen modèle qui a réussi à réaliser le rêve américain, beaucoup d'entre eux, énormément, répondront un certain Sam Walton. Ce monsieur a ouvert une chaîne de magasins qui s'appelle Walmart. En fait, c'est un grossiste. Il achète en très très grande quantité.
C'est connu.
Et il gagne.
C'est connu. Hein.
Il a ouvert le premier magasin. Il avait 27 ans. Il a marché tout de suite. De là, il a ouvert un autre. Il a ouvert près de 3000 magasins à travers tous les États-Unis et encore des centaines d'autres en dehors des États-Unis. Et il avait à sa charge 500 000 employés. Un empire. Ça fait partie des familles les plus riches des États-Unis. Il avait commencé à 27 ans avec un magasin. Et donc il est décédé en 92 quand il avait 74 ans. Il était donc chez lui à la maison, sur son lit de mort, tout simplement. Ses proches étaient autour de lui. Et il leur a dit, j'ai raté. Ma vie était un échec. Alors on lui a demandé, mais de quoi il parlait? Il a dit, j'ai tout donné pour mon travail. J'ai tout donné pour ma réussite matérielle. J'ai pas assez assisté ma femme, j'ai pas été assez proche de mes enfants, j'ai pas été attentif à mes petits-enfants, j'ai pas partagé de moments de tendresse avec mes petits-enfants. Et donc je repars de ce monde avec les poches pleines, mais l'âme vide, comme ça il a dit. Goy. Betsem, cette histoire nous place aujourd'hui devant un dilemme qui est répandu dans le monde, à savoir faire le choix entre la réussite à l'extérieur et la réussite à l'intérieur. Il y a deux sortes de hatzlacha, la réussite, on va dire le carriériste, et celui qui tient à réussir sa famille. Effectivement, la carrière, réussir sa carrière, c'est enivrant. Ça donne énormément d'assurance, de confiance en soi. C'est valorisant pour sa personne. On existe, on est connu, on parle de nous, on a besoin de nous. Alors que la réussite dans une maison, c'est quelque chose de très anodin, très anonyme surtout. Très anonyme, personne ne sait. Et la plupart du temps, on a affaire à des querelles, on va dire, assez insignifiantes, assez légères. C'est rempli de petits tracas, de problèmes, et de cavodes, de l'un et de l'autre, etc. On va dire ce qu'on va essayer aujourd'hui à travers donc, des propos qui sont principalement basés sur Hanouka, c'est voilà, essayer de se doper un petit peu dans le beau sens, de rediriger le bateau dans le bon sens, le bateau de la vie. D'accord, connaître, en fait, quelle responsabilité on porte dans la constitution d'une famille, dans l'importance de l'investissement à la maison vis-à-vis de sa femme. Alors la Gemara dans Shabbat qui parle de Hanouka, on dit comme ça c'est la phrase que tout le monde connaît, Tanou Rabanan, Ne Hanouka mitzvah l'anicha al petach beto mibachutz. Ok, la mitzvah telle qu'elle est présentée de prime abord d'après Chachamim, c'est de poser la Hanoukia donc à l'entrée de sa maison du côté extérieur. Ensuite, la Gemara continue en disant Imaya dar be'aliya. S'il habitait dans un étage en hauteur, Azmanicha bechalon asmucha lirshut rabim. Alors, il la placera à côté, donc proche de la fenêtre qui donne sur le domaine public. La Gemara finit en disant, donne une troisième option, au beshaat asakana, mais dans des moments de sakana. Manicha al shulchano vedayo, il la pose sur la table et ça suffit. Donc, effectivement, donc cette braïta nous enseigne, on va dire, les priorités requises au niveau de l'emplacement de la Hanoukia. D'accord ? À la base, c'est vraiment dans le domaine public, ou bien dans la maison vers le domaine public, ou bien encore carrément dans la maison. Et là, c'est vrai que quand on lit cette Gemara qui est reprise par le Shulchan Aruch, hein, le Shulchan Aruch aussi parle de, exprime les choses de cette manière. On va dire, bon, voilà, même si vous êtes en Israël ou aujourd'hui, même des sondages nous racontent que c'est une des fêtes les plus célébrées par la société israélienne, en général, même, on va dire, dans les milieux laïcs, dans les milieux même légers, ils ne sont pas du tout religieux. Bon, on ne verra pas des Hanoukiot, on va dire, devant toutes les maisons, devant toutes les entrées de maisons. Alors bon, c'est vrai que si on se promène à Bnei Brak, si on se promène à Mea Shearim, bon, voilà, on verra effectivement des Hanoukiot à l'extérieur, vous savez, dans les boîtes fermées, etc., mamash, devant l'entrée de l'immeuble, où on lèvera la tête, on en verra certaines au bord des fenêtres. Mais bon, si on va dire, on voit les choses de façon très générale, la majorité, même des gens pratiquants, des gens religieux, ne mettent pas la Hanoukia à la fenêtre. Même pas à la fenêtre, on la voit même pas. On la voit même pas, elle est carrément dans la maison. Et donc, on est en droit de se poser la question, mais attends, bon, alors, où est passée cette mitzvah telle qu'elle est décrite par nos chachamim dans la Gemara de Shabbat? Sur quoi on se repose? Alors, en fait, le mot d'ordre qui va nous aider donc à nous orienter convenablement, c'est la façon dont la Gemara nous présente la troisième option. La Gemara nous disait comme ça, « Besha'at ha-sakana maniach et taner ala shulchan betoch ha-bayit » Comme ça on disait, « Besha'at ha-sakana ». Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Si on regarde historiquement parlant, depuis 2500 ans que Hanouka existe, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, les Juifs ont été exilés de leur terre. Il s'avère que Hanouka tombe généralement à l'approche de fêtes des autres religions. Et c'est pas le moment, on va dire, de se démarquer ou de se faire voir, parce que cela pourrait attirer leur regard, leur animosité, leur donner, on va dire, la possibilité d'exprimer leur animosité à notre encontre. Donc, ce qui s'est fait, on va dire, au fur et à mesure des générations, après l'histoire, depuis l'exil, après la destruction du Beth Amikdash, bon, c'était effectivement de se protéger au niveau de l'antisémitisme qui planait un petit peu et qui régnait sur la surface de la planète. Bon, deuxièmement, Hanouka tombe en hiver. Donc, bon, techniquement parlant, faire sortir les bougies à l'extérieur, bon, c'était pas génial puisque la pluie, le vent, le froid, etc. étaient censés les éteindre. Et donc, on peut dire que grâce à ces deux paramètres, on peut dire légèrement, très simplement, comment ça s'est passé, nos chachamim ont vu, bon, on dit, bon, ben, écoutez, en fait, on est dans la troisième option. On ne peut plus ni faire la première ni la deuxième. Alors, on est béchat à sakana. Chat à sakana, t'allumes chez toi, tranquillement, sur la table, dans la maison. Le problème, c'est que, bon, Hachem, depuis plus de 70 ans, on est revenu sur nos terres. Donc, on est en Eretz Israël. Donc, on ne peut plus parler, on va dire, de l'animosité des goïms, du danger que cela peut représenter. Et je veux dire, même en Europe ou dans les pays occidentaux, aux États-Unis, je veux dire, c'est pas partout dans le monde où il fait mauvais d'être juif. Il y a des endroits aux États-Unis, au contraire, c'est une fierté pour les gens que d'affirmer qu'ils appartiennent au peuple juif. Et bien, cette question, elle a été, c'est pas une question anodine, elle a été posée par le Or Zarua, qui était un Rishon, Rabbi Yitzhak Ben Moshe. C'est un livre assez fondamental d'Alacha, sur lequel Shulchan Aruch se repose pour poser certaines de ses halachot. Lui, il était le Rav de Vienne, en Autriche. Donc en Autriche, il y a 800 ans, au XIIIe siècle. Et lui pose la question en une phrase. Il dit « Vekayom she'en sakana ». Aujourd'hui, il y a 13 siècles, hein, donc on est... Lo yadana maitama in madlikin bachatzerot. Pourquoi aujourd'hui on n'allume plus à l'extérieur, devant le portail de la maison, à l'extérieur des immeubles? Donc si, vous comprenez, si lui a posé la question il y a 800 ans, c'est clair qu'aujourd'hui, le statut de la communauté juive en général, internationale, s'est nettement amélioré. Donc sa question est encore plus forte aujourd'hui. Alors effectivement, il y a une explication fondamentale qui nous dit la chose suivante. En fait, c'est pas qu'on a du mal à changer de ce que nos ancêtres, de ce que nos pères ont fait, mais c'est surtout que des données ont changé. Il y a des données de base, les données de la société en général ont changé. Et quand on parle aujourd'hui de Pirsum HaNes, on ne l'entend plus exactement de la même façon. Le Pirsum HaNes est avant tout le Pirsum HaNes, comme on dit, l'Ibna Bayit Atzmam, pour les membres de la maison en priorité. C'est-à-dire que nos pères ont compris, vu la détérioration morale des valeurs de la société qui s'est opérée depuis déjà plusieurs siècles, ils se sont dit aujourd'hui, oui, le Pirsum HaNes, il doit avoir lieu. C'est-à-dire comment les Chachami ont compris, comment nos ancêtres, comment ceux qui nous ont précédés ont compris, Beshaat HaSakana. C'est quoi Beshaat HaSakana ? C'est pas obligatoirement l'antisémitisme ou les menaces à notre encontre physiquement. Beshaat HaSakana, au moment où le fait d'être spirituel est en danger. Et que ce danger, à la rigueur, est rentré dans la maison. Comme ça, il y avait un rav d'une yeshiva qui disait que Beshaat HaSakana, c'est quoi ? C'est quand le vent extérieur, quand l'ambiance extérieure aujourd'hui est rentrée dans les maisons. En soi, à travers les radios, les télévisions, les écrans, n'en parlons pas. On a ramené l'extérieur. Donc ça veut dire que quand la Gemara dit Madlikim mina petach beto mi bachutz, c'était justement pour pouvoir lutter où se trouvait l'extérieur. Mais quand aujourd'hui on parle que l'extérieur il est chez nous, betor beto c'est bachutz. Betor beto c'est bachutz déjà. Et bien, ce qu'on dit, c'est pas seulement, c'est pas un vort, on va dire, c'est pas un dvar Torah chassidique, où on interprète les choses au second degré, etc. En fait, c'est un Tosfot. Tosfot déjà au Moyen-Âge. Tosfot dans Shabbat, d'Afraf Alef Amoudbet, il dit comme ça, Véliniré de Ataen la chouche mata yadlik. Aujourd'hui, on n'est plus makpide sur l'heure à laquelle on allume. De Anu en la nu hekera, ça c'est le mot Tosfot, et la libne abayit. Extraordinaire. Tosfot déjà, historiquement parlant, il faut réaliser. Donc il y a à peu près de 1000 ans déjà, il disait En la nu hekera, nous n'avons de visibilité de cette mitzvah, et la legabe bne abayit. Uniquement à propos des membres du foyer, de la famille. Shaare madlikin mi bifnim. Puisqu'on allume à l'intérieur. Donc Tosfot le dit, et Bémet, quand on regarde le Shulchan Aruch, alors c'est. Oh, il s'est bloqué. Très bien. Le Shulchan Aruch dans le Siman Tafresh Ain Bet. Voilà, je l'ai ici. Alors, bon, il y a le Shulchan Aruch, il y a le Rama, effectivement. Le Shulchan Aruch donc, nous parle de cette demi-heure chez Tirchle Regal Minashuk, qu'il y a des passants. Donc aujourd'hui, bon, c'est pas un problème. Hein. Il y a des embouteillages même à 1h du matin sur le périph'. Donc. Chez Tirchle Regal Minashuk, on a le temps. Hein. Mais le Rama dit clairement, Yesh Omrim chez Bisman Azé chez Madlikin Bifnim. Voilà. Déjà, pour lui, c'est une donnée. Bisman Azé, Madlikin Bifnim. En notre Sarik Lizer, la Dikodem chez Tirchle Regal Minashuk, on ne fait pas attention à la demi-heure qui suit Tzetakochavim, etc. On va dire cette notion n'existe plus, donc on n'est pas dans le Shulchan Aruch des libéraux. Hein. Omikol makom tov yoter lizer la gam bismanazé. Bon, mais maintenant il est mieux, il est préférable aujourd'hui même d'essayer de s'efforcer, de faire un effort, d'allumer le plus tôt possible, etc. Il dit ben, on est madlik aujourd'hui toute la nuit. Quand on prend le Mishnah Brura, donc sur cette partie du Shulchan Aruch dans le Seif Katan Yud, par exemple, il dit lorsqu'une personne est rentrée très tard la nuit, il dit viadlik keshebne abayit mekubatim yachad. Je pense aujourd'hui, alachiquement parlant, je pense, concrètement, le critère principal, c'est allumer lorsque la famille est réunie. Comme ça, hier encore, j'entendais d'un rabbin à Paris qui me racontait l'histoire de Rav Shlomo Zalman Yorbach qui se faisait raccompagner par un élève de la yeshiva de Kol Torah. À l'époque de Hanouka, ils sont entrés à la maison. Les Nérotes étaient prêtes, donc un soir de Hanouka, et le Rav s'assoit à sa table, le Bachour qui l'accompagne avec, et il continue à parler de Divrei Torah, d'échanger, etc. À un moment, l'élève un peu gêné, voilà, il voit sa montre, c'est à Kohavim, c'est passé, on est bien après. En plus, les Ashkenazim, ils allument à l'Ashkia. L'Ashkia était déjà passé. Donc. Et quoi d'arabe, vous allumez pas. Mechila, mais. Il me dit, écoute. Elle dit, ma femme, elle est partie faire des courses. Elle dit, est-ce que moi, je vais oser ne pas la faire participer à la Hadlakal des Nerod de Hanouka, cette Agmat Nefesh. Elle me dit, la tristesse que me cause l'absence de ma femme fait que je ne peux pas allumer maintenant. Bnei Abayit, il faut que la famille soit. La famille, c'était sa femme, lui. Donc, en tout cas, le Mishnah Brura ramène ça à la Halakha. Et il dit, Yadlik, qui est chez Bnei Abayit, mais Kubatsim Yachad. Et dans le Seif Katanyu d'Alef, il dit Kol alayla, donc le Rama disait qu'on peut allumer toute la nuit, Adamu d'Ashacha, ou Bibracha, Vainu d'Afka im Bnei Abayit Neurim. Aval im Yeshenim, en levarech aleem, el ayadlik belo bracha, de kemod il est dit doula, etc. Veim ba leveto kodem alot Ashacha. Écoutez bien, je parle maintenant d'une personne, imagine, un gardien de nuit. Il est parti en plein jour déjà, il a commencé en fin d'après-midi, il a travaillé toute la nuit, il rentre le matin à 5h du matin à la maison. Il dit le Mishnah Brura, hein, avec tout le moussard et toutes les valeurs de Derech Eretz qu'on lui connaît, il dit, si quelqu'un il rentre avant Alot HaShacha, ou Matza, aujourd'hui Alot HaShacha c'est 6h42, hein, donc c'est très faisable, ou Matza Bnei Abayit Yeshenim, et que les membres de sa maison dorment, Midanachon, chez Yakitsem, Kedesh Yuchal Adik Bebracha. Le mieux serait de les réveiller afin de pouvoir allumer avec la bracha. Donc mamash, on retrouve même halachiquement ce concept-là, à savoir qu'aujourd'hui, le bachout, il est dans la maison. Et que le RR, donc la leçon, on va dire la valeur principale qu'on va essayer de véhiculer, elle est par rapport aux enfants, par rapport au Bnei Abayit. Et ça, bon, le rabbi, dans un des Likutei Sichot, le ramène. Lui, vous savez, il parle de ces fameuses menorot, là. Ils ont le truc ici, avec les bougies là. Alors, il y en a qui le mettaient à l'entrée de la maison, donc à la mezouza à droite. Ils mettent la chanouki à gauche, à l'intérieur de la maison. Mais ils le mettent comme ça, vers l'extérieur, pour faire, voilà, comme la halakha. Et le rabbi là-bas, il dit à ses chassidim, il dit, non, on fait pas ça, non, il faut pas que la lumière des bougies nous donne le dos à la famille, il dit, retourne là, même si c'est en direction de la maison, il dit, parce que les membres de la famille doivent profiter, doivent pouvoir éclairer l'intérieur de la maison. Et il dit, alors que dans beaucoup de chassidouyot, on a l'habitude, le rébé va allumer, tout le monde est autour de lui, etc., il dit, bon, chez les Chabad, ils font pas ça. Chacun se doit d'allumer à l'intérieur de chez soi. Et c'est extraordinaire. Mais maintenant, ça, de façon, on va dire, pour parler de façon un peu plus moderne, c'est-à-dire que ces Chabad qui organisent, on le sait aujourd'hui, à travers le monde entier, des allumages partout, mais leur chef spirituel, le rabbi, leur disait d'allumer chez eux à l'intérieur de la maison. D'abord, c'était ça la priorité à l'achiquement. Après, le reste, c'était du plus. C'est-à-dire que les gens qui critiquent, non, mais il n'y a même pas de misal, il ne dit pas qu'il faut allumer sur la place de l'hôtel de ville, etc. Mais même le rabbi est d'accord avec ça, bien entendu. Il ne s'agit pas ici de réaliser la mitzvah de la Katnerot Hanouka. La mitzvah de la Katnerot Hanouka, c'est vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ta femme, ta famille. Il dit, ça, c'est en plus, c'est au même titre que le rabbi a demandé de faire des betrabas dans tout le monde. Ben, c'est tout, on va essayer de propager le judaïsme. C'est tout, c'est en tant que vraiment, voilà, c'est saisir cette occasion pour faire une fête, pour se faire connaître, etc. Mais ce n'est pas du tout dans le cadre de la mitzvah, jamais, jamais de la vie. Au contraire, lui, il était makpid que ça se fasse à l'intérieur de la maison. Il dit, et même si on peut les mettre à la fenêtre, mais que, on va dire, voilà, le rebord de la fenêtre n'est pas un endroit central dans la maison. Il dit, on n'allumera pas au rebord de la fenêtre. On allumera sur la table pour que les enfants puissent en profiter. Et d'ailleurs, donc, quand on réfléchit un petit peu, voilà, au mot Hanouka, quand on se pose la question, ce que la Gemara demande dans Shabbat, Maï Hanouka, alors c'est vrai que le Ran dit Maï Hanouka, Hanou Bechafé. C'est-à-dire que la guerre des Hashmonaïm à l'encontre des Yévanim, qui a duré 4 ans, s'est terminée le 24 qui se lève. Donc le 25, ils ont Hanou Bekafé, ils sont reposés, ils ont arrêté, ils sont rentrés, là, ça y est, on a fini la guerre. Exactement à l'image de Pourim. La guerre avait eu lieu là, le 13 Le 13 Adar, ils ont pu retourner les armes contre les autres, et c'est le 14 qu'ils sont rentrés chez eux à la maison. C'est vrai que le Rambam dit ça, mais tout le monde, beaucoup de Mefarshim en tout cas, s'exclament contre le Rambam en disant, non, Hanouka, nous aujourd'hui, pratiquement parlant, on ne parle pas de la guerre, on ne fait rien par rapport à la guerre. Tout ce qu'on fait, c'est par rapport à l'allumage, c'est par rapport à l'huile, par rapport aux bougies. Hanouka se célèbre uniquement autour du Parashemen, pas par rapport... Alors, qu'est-ce qu'on va répondre? Qu'est-ce que la Gemara va répondre? Hanou Bechafé. Dit non, alors, il faut dire Hanou Bechafé, Milashan Chinour. En fait, il ramène, le Marsha ramène le Perek de Rabbi Gemara, le Perek de Rabbi Ishmael. Là-bas, c'est marqué que Bet Hashmonaï, la maison, la famille des Hashmonaïm avait gardé, avait réussi à récupérer des morceaux de pierre que les Yévanim avaient brisés du Mizbeach, et ils les avaient Ganzou, à la Gniza, ils les avaient gardés, parce que tout simplement ils ont dû changer le Mizbeach, donc Chinchou est un Mizbeach, c'est ça Hanouka, comme il chante Chinouch. Et donc on revoit ce qu'on est en train de dire, la Lik Mibifnim, c'est-à-dire que le nom de la fête indique aussi, évoque cette valeur fondamentale qui est le chinour, qui est donc adapter quelque chose, faire en sorte qu'il soit possible d'inaugurer, on va dire, d'utiliser, etc.
Mais juste une remarque, ouais. Même avant, il y avait des quartiers juifs, le Mella.
Ouais.
Il y avait des quartiers juifs.
Ouais.
Il n'y avait pas de...
Chanoukiot à l'extérieur?
Non.
Ah, donc ça rejoint,
il y avait pas
magnifique, magnifique, ça rejoint tout ça. Mais Bémet, il y a un vort magnifique. Un Dvar Torah extraordinaire. C'est connu, je crois que c'est la Gemara le dit, que les Yévanim avaient ordonné aux Juifs Kitvou lachem al keren hashor, she'en lachem chelek b'elokei Israël. Écrivez sur les cornes, les cornes des bœufs, des taureaux, que vous n'avez pas de part. C'est quoi cette histoire en fait, on se pose la question. Écrivez sur les portes de vos maisons, sur le port de vos écoles, de vos villes. Sur le port des taureaux, des bœufs, qu'est-ce que ça va t'avancer? Ben, c'est une question que beaucoup posent.
Qu'est-ce qu'ils écrivaient? Qu'est-ce qu'ils
devaient écrire? Je n'ai pas de part dans le Dieu d'Israël. El ni chelek b'elokei Israël. Je n'ai rien à voir. C'était l'ordre des Grecs. C'était ce qu'ils nous ont imposé de faire. Qu'en rapport Keren Hashor? Il y avait dans la génération précédente, au XXe siècle, aux États-Unis, un des rabbinim très impliqué dans les Yeshiva de Mir. Il s'appelait Rabbi Cheskel Avramsky. Et un jour, un de ces jours, on va dire, détente, il a fait une sortie au musée. Alors, c'est pas que c'était pas un féru d'histoire, mais il s'est dit, tiens, il y a des objets qui sont entreposés là-bas qui pourraient m'aider à comprendre mieux certains objets décrits dans la Gemara, et je pourrais de cette façon réaliser un petit peu mieux mon étude. Donc il a passé une journée au musée et à un moment donné, effectivement, il voit un coin donc qui était réservé à l'Empire grec et il monte là-bas une corne de bœuf, de taureau. Et donc ce qui s'est expliqué en dessous, qu'est-ce que représentait cet objet, il disait là-bas dans la description, oui, à l'époque, les Grecs utilisaient les cornes de taureau pour faire un trou très fin au bout et s'en servir comme biberon, comme ustensile pour donner à manger au bébé. Et là, voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui. C'est ce que la Gemara. En lachem chelek b'elokei Israël. À qui ils ont voulu dire ça? Au bébé. Écrivez sur les biberons de vos bébés. En chelek b'elokei Israël. C'est ça qu'ils ont voulu toucher. Et donc ça rejoint tout à fait ce qu'on est en train de parler par rapport à cette notion de chinour. On raconte l'histoire en Californie. Il y a un établissement qui s'appelle American Jewish University. Bon, alors, tout ce qui s'appelle juif aux États-Unis, bon, il y a à boire et à manger, comme on dit. Il y a de tout. Et en tout cas, bon, ce sont de hautes études destinées donc à un public juif. Et qui en même temps, on va dire, va les former à devenir les patrons de demain, les leaders communautaires même, à échelle nationale des États-Unis, de demain. Et donc cet établissement a l'habitude, chaque année, en été, de réunir 75 jeunes dans un hôtel pour un week-end. Et ils font intervenir là-bas toutes sortes de leaders juifs, aussi bien dans le commerce que dans les différents courants du judaïsme, d'accord, tout pour qu'ils s'inspirent d'eux et qu'ils leur fassent part de leurs problèmes, de leur apprenti, qui les aident à se former. Et justement, il y a un jour, le rabbi avait fait appeler le chaliach de Californie, le Rav Konin, il s'appelait. Un chaliach, bon, avec une détermination comme on connaît dans le monde rabbin. Le rabbi lui avait dit, écoute, il faut absolument que tu t'introduises là-bas. Essaye d'avoir, il s'appelle Shlomo Bardin, le responsable de ce programme. Il dit, essaye de rentrer en contact avec lui. Il faut que tu t'imposes, il faut que tu arrives et qu'il te trouve un créneau pour que tu interviennes et que tu fasses part à ces jeunes, à la génération de demain, de la vision chassidique du judaïsme, qui s'en imprègne, etc. Au moins qu'ils soient au courant. Bon, alors, c'est pas sans mal, mais il a réussi à se trouver une place. En fin de compte, le fameux...
Vous avez un scooter, de vous ? Un scooter
MP3 ? Oui, oui.
Le MP3 qui est devant les meubles,
ouais,
en face,
ouais.
Il y a les clés sur le coffre.
Ah,
chercher,
merci beaucoup.
Ça me rappelle quelque chose, hein ?
Ouais. Ça m'arrive une fois déjà, ouais.
Dans le
19e, ça aurait pas fait l'enfer. Et donc ce fameux Shlomo Bardin, bon, il a dit, écoutez, bon, je peux vous trouver un créneau si vous voulez. Il a mis tout à la fin, alors que les élèves avaient toute la journée écouté différentes conférences, etc. Bon, il lui a donné une heure pour être bien avec lui. Et effectivement, une année parmi tant d'autres. Le fameux Shlomo Bardin appelle le Rav Konin pour lui dire, écoutez, j'ai un service à vous demander. Cette année spécialement, nous avons un groupe, donc ces 75 jeunes sont des gens très humanistes, très libéraux, de façon très significative, et j'aurais aimé
celui-là, oui
celui-là, ouais. Ouais, c'est sûr, ça. Merci beaucoup.
Passe un quart d'heure au téléphone devant, j'espérais que la personne revienne.
Merci beaucoup. Et donc, il lui demande, voilà, on a des jeunes qui sont très très loin, et je pense que là, il faudrait leur parler au cœur. Et donc, j'aurais besoin que vous interveniez en premier. Oui, écoutez, avec plaisir, pas de problème. Le Rav Konin, effectivement, va pour intervenir, et on avait une bande de jeunes assez farouches, enfin, assez révoltés. Parmi eux, il y avait un certain Steven Leibovitz. Alors lui qui était carrément un anti-religieux et qui n'a pas arrêté pendant toute la dracha d'interrompre le Rav. Et non, je ne suis pas d'accord, et si, et ça, etc. Maman, il lui a cassé tout son discours. Bon, le temps est passé. Le Rav Konin avait pris l'habitude chaque année, puisqu'il parlait en dernier, donc il passait au dîner, à table, après... Et il avait l'habitude donc de passer dans le réfectoire pour aller parler avec s'asseoir avec eux, partager des moments un peu plus intimes, un peu plus chaleureux. Et donc cette année, comme d'habitude, il s'assoit et il chante une chanson chassidique d'un des élèves du Baal Shem Tov. L'homme chané, Kol Bayar, ça s'appelle. En fait, c'est une chanson qui parle d'un dialogue entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël, dans lequel Akadosh Baruch Hu nous demande, allez, qu'est-ce que j'ai envie que vous fassiez le premier pas, revenez vers moi, et où le peuple d'Israël répond à Hachem, mais nous aussi on veut, mais aide-nous à faire le premier pas. Voilà, c'est ça, on va dire, le dialogue de la chanson. Maintenant, eux ne connaissaient pas cette chanson, bien entendu, mais le Rav n'en a rien à faire, il s'entête, il est là, il chante, il répète. Bon, au bout d'un certain temps, certains jeunes un peu respectueux quand même, bon, alors ils aident le Rav, ils commencent à entonner, ils ont compris la mélodie, et il commence à chanter avec eux. Et au bout de quelques minutes, ce fameux Steven Leibovitz, là, se lève violemment de sa table et sort dehors. Donc, quand le Rav a fini de chanter, le Rav sort dehors et il va le voir. Il était dans un coin, seul, isolé. Il dit, Steven, et il se retourne, il voit le visage rempli de larmes, il en pleure. Si si c'est pas trop intrusif, est-ce que tu peux m'expliquer ? Il dit, écoutez, c'est simple. Moi, dans ma famille, on est des libéraux, notoires, avec conviction. Mais mon grand-père maternel était un chochet rabad. Comme vous, un Lubavitch. À la fin de sa vie, il était gravement malade, très limité, complètement dépendant. Et donc, on n'a pas eu d'autre choix que de le faire venir habiter chez nous à la maison. Et donc, ces dernières années, vraiment, étaient très limitées. Il a vécu avec nous. Il avait sa vaisselle. Il avait ses trucs pour pouvoir manger cachère, etc. Et moi, j'étais très petit, donc j'allais à l'école tous les jours. Et un matin, je me suis levé relativement tôt. Et mon grand-père m'a appelé. Il m'a mis sur ses genoux. Et il a commencé à... Vraiment, avec les dernières forces qu'il avait, il était très, très affaibli. Il a commencé à chanter une chanson. Chanter un air. Il a répété comme ça 2-3 fois. Est arrivée l'heure de partir à l'école. Ma mère m'a appelé, m'a amené à l'école. Et malheureusement, je n'ai plus jamais revu mon grand-père puisque, revenant le soir à la maison, on m'a annoncé son décès. Et en tant que gamin, c'est la seule chose que j'avais retenue de lui, c'était cet air-là. Et je suis donc... Après ça, j'ai grandi. À chaque fois que je voyais un religieux, tu ne connais pas ça. T'as un air comme ça, et lui il essayait de ce qu'il se rappelait.
Il se retrouvait.
Et l'autre, mais non, je connais pas. Et il y a tous les religieux à qui j'ai demandé, personne. Et il y a la chanson que vous avez chantée là avec mes amis. Vous m'avez remis, c'était ça que mon grand-père m'avait chanté. Extraordinaire. C'est comment, en fait, la maison, le baït. C'est tout simplement, c'est l'usine de l'homme, c'est la fabrication de l'homme. Peut-être que l'école est l'endroit où on donne aux enfants des connaissances, mais l'endroit où ils captent les valeurs, les centres d'intérêt, les priorités, restera à jamais la famille, la maison. C'est-à-dire que dans les moments les plus critiques de notre vie, c'est toujours vers là-bas. On reviendra. C'est toujours ça qui émergera en premier. C'est l'ancrage même de la personne. Et pour, on va dire, accompagner ça d'une parole de Torah que le rabbi dit extraordinaire. Il dit, vous comprenez, le fameux premier rachi de la Torah. Mais comment, c'est un livre de loi. Comment un livre de loi, il commence à nous raconter des histoires, une autre histoire. Bon, chapitre 2, on va commencer avec les lois. Viens Rachid, on aurait dû commencer depuis à Chodesh Hazelachem 15 parachiotes à nous raconter des histoires. Le Baït, les Avot et les Imot. C'est vers quoi, de quoi tu es profondément constitué? Quelles sont tes valeurs qui t'ont amené ici? Et il dit, et quand on essaye un petit peu, c'est une très belle vision qu'il dit. En fait, quand comme ça tu essayes de voir d'un seul regard, depuis Bereshit jusqu'à Achodesh Hazelachem, jusqu'à la première mitzvah, on pourra distinguer parmi les différentes histoires qui y sont ramenées, on y marquera 5 conflits. Le premier conflit entre deux frères, Caïn et Abel, qui finit par un meurtre. Le deuxième conflit qui y figure, c'est Yitzhak et Ishmaël, qui finit par une séparation. Fais ta vie, je fais la mienne. C'est déjà moins dramatique. Le troisième conflit, Yaakov et Esav, dans les mots, il finit par Vaichabekeu, Vaichakeu. Il s'enlace, il s'embrasse. Après, chacun, effectivement, a sa vision de la vie, a sa philosophie, sa façon de... Mais c'est comme ça que la Torah le dit. Vaichabekeu, Vaichakeu. Le quatrième conflit, c'est Yosef et ses frères, qui finit par des excuses à n'en plus finir, et Yosef qui devient gêné. Mais c'est pas vous qui m'avez amené ici, c'est Hachem qui m'a amené, etc. Et en fin de compte, celui qu'on avait haï se retrouve à devenir la référence de laquelle vont dépendre tous les autres frères. C'est-à-dire qu'il y a une réconciliation complète, encore plus forte. Et le cinquième, c'est Moshe et Aaron. Comme dit David Amel, Erzekan Aaron, chez Yored Alpiminot, Kachem et Natov, Yored Alzakan. Quand l'huile d'onction que Moshe Rabbeinu avait mis sur Aaron pour le nommer Kohen Gadol, Moshe Rabbeinu avait la sensation que ça coulait le long de sa barbe à lui. Vera'acha v'samach belibo. Vera'acha v'samach belibo. Ça, c'est le cinquième. En fin de compte, tous. Et après, on parle à Chodesh Hazelachem. Ah, et après, on commence les mitzvot. C'est-à-dire, voilà l'évolution de la Torah, voilà le tachtit, l'ancrage, l'infrastructure de base sur laquelle toutes les mitzvot vont être ensuite constituées. Et bien, il y a une question fondamentale qu'on oublie de se poser, mais tellement elle est évidente. Dit quand Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe d'aller délivrer les Bnei Israël pour aller le servir sur la fameuse montagne recevant la Torah, etc. Il dit, attends, dis-moi, ça aurait été pas plus intelligent, plus ordonné d'arriver en Égypte et de poser la fameuse question. Est-ce que vous voulez être le peuple de Dieu? Naase venishma. Est-ce que vous voulez le devenir? Et après, voilà, qui c'est qui est intéressé? Ok, il est avec moi, alors ne vous inquiétez pas, je vais vous amener. On va y aller, on va devenir le peuple d'Hachem. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher? Non, je vais vous libérer. Après, il y a une sélection naturelle qui se fait. Il y a ceux qui se sont assimilés, qui ont disparu, qui ont contribué, peu importe. Et seulement, et un mois et demi après notre sortie, là, Hachem vient. Bon, alors, maintenant, qui c'est qui veut? Mais vous imaginez une seule seconde, si la réponse n'était pas positive? Ah bon, bah d'accord, je vous ramène en Égypte, on va refaire sortir Paro et ses soldats de la mer Rouge. Mais rien de l'ordre. C'est une chose tellement évidente, mais à laquelle on ne fait pas attention. En fait, Akadosh Baruch Hu a dit non. Je ne regarde pas d'abord qui a raison, qui a tort, combien ils se sont assimilés, est-ce qu'ils ont eu raison de le faire, est-ce qu'ils auraient pu faire autrement. Déjà, je veux leur faire voir des miracles. Déjà, je veux leur montrer, je veux leur manifester combien je les aime. Béni, Bechori, Israël. Déjà qu'ils prennent conscience, voilà, combien j'ai chamboulé la nature pour les amener à cette question qui arrivera 49 jours plus tard. Voulez-vous être mon peuple? Extraordinaire. Et c'est mamash, ce erreur qu'on essaye de faire passer à Hanouka en allumant les bougies à l'intérieur de la maison. C'est cet amour, c'est toutes ces réunions de famille. On donne. Le rabbi disait d'ailleurs, il écrit dans une des sichot que ses précédents, ceux qui l'ont précédé, avaient l'habitude de donner donc des cadeaux aux enfants. Alors, c'est pas des cadeaux, c'était de l'argent qu'ils donnaient. Il dit, mais ils le donnaient à leurs enfants, même mariés, ils continuaient, pas parce qu'ils en avaient besoin. Il dit, mais juste pour inciter de façon, on va dire, très douce, pour inciter nos enfants mariés à continuer à le faire avec leurs propres enfants. Si mon père a marié et qu'on continue à me donner de l'argent, donc voilà que moi, mes enfants, qui sont encore petits, voilà que je dois les gâter. Et donc, on comprend ce l'aniach, mais sha'at ha-sakana, aujourd'hui c'est sha'at ha-sakana, et le tachtit, l'ancrage, l'infrastructure de base, c'est l'amour, la chaleur, la lumière qu'on va pouvoir dégager à l'intérieur de nos murs, de façon à ce que nos enfants puissent toujours revenir vers ces valeurs.
Merci. 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 Merci